Lizzie présente Le glas, la faucheuse, livre 3 de Neil Schusterman, lu par Maxime Van Zandvoort. Pour David Gale, la serpe suprême des éditeurs. Ton maniement éclairé de la plume nous manque à tous. Première partie. L'île perdue et la cité engloutie. Extrait du discours d'investiture de Son Excellence, la Serpe suprême de Mid-Amérique, Robert Goddard. 19 avril, année du Raptor.
C'est avec une extrême humilité que j'accepte le titre de Serpe suprême de Mid-Amérique. Je souhaiterais que ce soit en des circonstances plus joyeuses. Le drame d'Endura demeurera pour toujours dans nos esprits. Les milliers de vies qui se sont éteintes en ce jour funeste resteront dans nos mémoires aussi longtemps que l'humanité possédera un cœur qui bat et des yeux pour pleurer. Les noms des défunts resteront à jamais sur nos lèvres. C'est un honneur pour moi de songer que l'ultime décision des sept grands faucheurs fut de me reconnaître le droit d'accéder au grade de serpe suprême. Et puisque la seule autre candidate a péri dans la catastrophe, il me semble inutile de raviver des plaies encore vives en dépouillant les votes. Dame Curie et moi-même n'étions pas toujours d'accord. Pourtant, elle était l'une des meilleures d'entre nous, et elle marquera l'histoire comme l'une des plus grandes faucheuses de tous les temps. Je déplore sa disparition autant, sinon plus, que quiconque. Beaucoup d'hypothèses ont été émises sur l'identité du coupable de cette tragédie, car ce n'était pas un accident, mais bien un acte de malveillance minutieusement élaboré. Permettez-moi de mettre fin à toutes les rumeurs et spéculations qui circulent. J'assume l'entière responsabilité de ce drame. Car c'est mon ancien apprenti qui est l'auteur de cet acte impensable. C'est lui qui a saboté l'île, Rowan Damish, plus connu sous le pseudonyme de Maître Lucifer. Si je ne l'avais pas formé, si je ne l'avais pas pris sous mon aile, jamais il n'aurait pu accéder à Endura. Et jamais il n'aurait eu les compétences nécessaires à la perpétration de ce crime abominable. Ainsi, la responsabilité m'incombe à moi et à moi seul. Mon unique consolation est qu'il a également péri lors du naufrage et que ses actions impardonnables ont sombré avec lui. Nous sommes aujourd'hui orphelins. Plus aucun grand faucheur pour guider nos pas. Plus aucune autorité supérieure pour établir les règles de la communauté. En conséquence, nous devons tous ensemble mettre de côté nos différends une bonne fois pour toutes. Le nouvel ordre et la vieille garde doivent unir leurs forces afin de soutenir les faucheurs partout dans le monde. À cette fin, j'ai décidé d'annuler officiellement le quota de glanage dans ma région, par respect pour les faucheurs qui éprouvent des difficultés à les réaliser. À compter de cet instant, les faucheurs mid-américains sont en droit de glaner aussi peu de gens qu'ils le jugent nécessaire, sans craindre de sanctions. J'espère que d'autres communautés suivront bientôt notre exemple et aboliront à leur tour leur quota de glanage. Bien entendu, pour compenser l'œuvre de ces faucheurs qui travailleront moins, le reste d'entre nous devra glaner davantage, afin de contrebalancer la tendance. Je compte néanmoins sur le fait qu'un équilibre naturel s'instaurera. Chapitre 1. Déposer les armes. Il fut pris au dépourvu. Un instant, il dormait profondément. Et celui d'après, il était brutalement tiré de son lit et entraîné dans l'obscurité par des inconnus. « Ne lutte pas, » lui murmura-t-on. « Sinon ce serait pire. » C'est pourtant ce qu'il fit. Et même s'il venait tout juste de se réveiller, le cerveau encore embrumé par le sommeil,
il parvint à s'extirper de leur étreinte et à dévaler le couloir. Il appela à l'aide, mais la nuit était trop avancée pour que quiconque volât sa rescousse. Parvenu à un angle, il prit à droite, sachant qu'un escalier se trouvait là. Or, dans le noir, il jaugea mal la distance et dégringola la tête la première dans les marches, se brisant le bras sur le granit. Il sentit les os de son poignet droit se rompre. Une douleur aiguë le transperça. Quelques secondes seulement. Le temps qu'il se relève, elle s'était déjà calmée, et son corps tout entier baignait dans une douce chaleur. C'était ses nanites, saturant son système sanguin d'analgésique. Il avança d'un pas titubant, maintenant son bras en écharpe pour éviter que son poignet ne pende à un angle improbable.
« Qui va là ?»
entendit-il quelqu'un crier.
« Que se passe-t-il ? »
Il se serait volontiers précipité vers la voie, mais il n'était pas certain de la direction d'où elle provenait. Ses nanites lui brouillaient le cerveau. Impossible de distinguer le haut du bas, encore moins la gauche de la droite. Quelle poisse de perdre ses repères au moment où il en avait le plus besoin. Sous ses pas, le sol cédait comme des sables mouvants. Il progressa en tanguant entre les murs, tâchant de conserver son équilibre jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec l'un de ses assaillants, qui le saisit par son poignet brisé. Malgré les analgésiques, la sensation fut suffisamment désagréable pour qu'il sente son corps se relâcher, trop faible pour résister.
« Il fallait que tu te rebiffes, hein ?»
fit remarquer son agresseur.
« Je t'avais pourtant prévenu !»
Il entreaperçut l'aiguille, un vif éclair argenté qui fendit l'obscurité juste avant qu'on ne la lui plante dans l'épaule. Les antidouleurs se glacèrent dans ses veines et la terre se mit à tourner à l'envers. Ses genoux se dérobèrent sous lui. Toutefois, il ne tomba pas. Trop de mains la grippaient désormais pour qu'il s'écroule. On le souleva et on le transporta. Une porte s'ouvrit devant lui et il se retrouva dans la nuit venteuse. À deux doigts de perdre connaissance, il n'eut d'autre choix que de s'abandonner à l'ennemi et de déposer les armes. À son réveil, son bras avait cicatrisé. Autrement dit, il avait été inconscient pendant plusieurs heures. Il voulut remuer le poignet, sans succès. Non à cause d'une quelconque blessure, mais parce qu'on l'avait attaché. Il était pieds et poings liés. Il avait également la sensation d'étouffer. On lui avait enfilé une sorte de sac sur la tête, suffisamment perméable pour lui permettre de respirer, mais assez épais pour rendre chaque inspiration laborieuse. Même s'il n'avait aucune idée de l'endroit où il était détenu, il savait de quoi il s'agissait. On appelait ça un kidnapping. Aujourd'hui, les gens le faisaient pour s'amuser. À l'occasion d'un anniversaire surprise ou d'un week-end à sensations fortes. Sauf que dans le cas présent, ce n'était pas un enlèvement pour rire. C'était pour de vrai. Et même s'il ignorait l'identité de ses kidnappeurs, il savait pourquoi on l'avait enlevé. Comment aurait-il pu ne pas le savoir ?
« Y a quelqu'un ? J'arrive pas à respirer. Si je meurs, je vous servirai pas à grand-chose, hein ?»
Il perçut des mouvements autour de lui. On lui ôta brutalement le sac de la tête. Il se trouvait dans une petite pièce sans fenêtre. Et après son séjour prolongé dans le noir, il fut ébloui par la lumière crue. Trois personnes se tenaient face à lui. Deux hommes et une femme. Il s'était attendu à affronter des mâles propres avisés et endurcis. En réalité, c'était l'inverse. Certes, il avait bien affaire à des mâles propres. Cependant, tout le monde ne l'était-il pas, désormais ? Disons, presque tout le monde.
« On sait qui tu es !»
lâcha la femme qui se tenait au milieu et qui était apparemment la chef.
« Et on sait ce que tu peux faire !»«
Ce qu'il peut soi-disant faire !»
précisa l'un des deux autres. Ils étaient tous trois vêtus d'un costume gris froissé, de la couleur du ciel nuageux. C'étaient des agents Nimbus. Enfin, des ex-agents Nimbus. On aurait cru qu'ils ne s'étaient pas changés depuis le jour où le Thundered était devenu muet. Comme si le fait de porter l'uniforme leur donnait l'impression d'avoir encore une fonction à remplir. Des agents Nimbus ayant recours au kidnapping. On marchait sur la tête.